Ces dix plaies ne sont pas un récit que l'on doit uniquement comprendre au sens littéral. Certes, on doit le comprendre au sens littéral. Toute la Torah se comprend aussi au sens littéral. Mais il y a d'autres éléments d'explication derrière, les fameuses dimensions du Pardès, le sens littéral, le sens allusif, le sens homélytique et le sens mystique. Ces dix plaies ne sont donc pas une série d'événements spectaculaires. Et ces plaies, leur succession, va nous livrer un moment fondateur. Alors, examinons ces plaies tour à tour. Le sang, première plaie, qui ouvre le processus de libération en frappant le Nil. Le Nil, ne l'oublions pas, c'est une divinité pour les Égyptiens. Or, que voyons-nous au sens littéral? Bien, le récit se déroule simplement, le Nil devient sang, le fleuve Nil devient sang, les poissons meurent, l'eau, évidemment, imbuvable pour les Égyptiens, mais les Hébreux pouvaient boire de l'eau. Ce qui fait que les Égyptiens, s'ils venaient prendre de l'eau dans un récipient appartenant à un Hébreu, eh bien, cette eau-là se transformait en sang. La seule manière pour eux de boire, nous disent nos maîtres, c'est d'acheter l'eau aux Hébreux. Dans ce cas, l'eau restait eau et ils pouvaient se désaltérer. Ainsi, cette plaie nous révèle la fragilité de la prétendue divinité du Nil et, a fortiori, de toutes leurs autres divinités. La plaie de l'eau transformée en sang, si on l'examine selon le Rémèze, eh bien, c'est que justement, comme on vient de le dire, le Nil, l'eau, allusion à un dieu impuissant, incapable de se défendre. Pour le Drache, c'est la violence qui est punie. Selon la lecture mystique, l'eau du Nil, devenue sang, nous conduit à un retournement des flux divins. Je m'explique. La bonté se retire, l'eau, c'est le symbole du Hesed, de la bonté divine. La bonté se retire, il n'y a plus d'eau. La rigueur se dévoile, cette eau est devenue sang. Or, le sang, c'est une allusion directe à Gvoura, la rigueur divine. On peut compléter cette vision par celle de la Chassidoute, pour qui le sang correspond à la chaleur animale d'âme Nefesh, mais aussi, en définitive, aux passions brutes qui dominent l'être humain. Pour le Tanya, cette grande œuvre d'un rabbin de Lubavitch, eh bien, la première étape de la libération, le sang du Nil, première étape de la libération, première plaie, le but de cette première plaie, c'était de refroidir les passions négatives et de les orienter vers la sainteté. Donc voilà. Une série par petites touches successives de compréhension de cette plaie, les eaux du Nil devenant sang. Les grenouilles, deuxième plaie, les grenouilles envahissent l'Égypte jusqu'à même entrer dans des fours. Littéralement, leur intrusion partout fait comprendre aux Égyptiens que rien n'est à l'abri lorsque l'ordre est brisé, lorsque Hachem décide d'intervenir, eh bien, l'espace des Égyptiens est totalement envahi. Et les grenouilles, nous disait-on, comme elles savaient qu'elles appliquaient une décision divine, elles rentraient même dans des fours, quitte à se brûler. Le Gaon de Vilna lit dans ce mot grenouille, c'est-à-dire tsefardéa, une allusion à la connaissance. Parce que l'on a comme tsipor, oiseau, et dar, la connaissance. Donc les créatures viennent rappeler à l'homme la présence divine dans chaque recoin du monde. Pour le Drache, cet épisode montre que la moindre créature divine, aussi simple qu'une petite grenouille, eh bien, participe à l'harmonie du monde et applique la volonté de Dieu. Les kabbalistes rattachent cela au monde des émotions. Les grenouilles représentent, symbolisent des sentiments envahissants. Et également, on parle de pensées parasites, notamment la hasidoute, de pensées parasites qui empêchent l'âme d'entendre sa propre voix. Et donc, ces grenouilles viennent nous donner un message qui est que la libération passe par le silence intérieur. Éviter d'être submergé de bruit, bruit, pas seulement du bruit qui fait mal aux oreilles, mais aussi le bruit au sens de la communication, des choses parasites qui viennent empêcher de bien comprendre un sujet. Autre plaie, celle des kinim, l'époux. C'est la troisième plaie. On nous dit, au sens littéral, la poussière devint poux. Le plus petit élément de la nature, à moins de, enfin, plus petit, à une époque où on n'avait pas les microscopes électroniques pour voir des bacilles et des virus, hein, mais ce tout petit élément de la création est devenu un instrument divin. Il nous apporte ainsi une grande leçon. Rien n'est insignifiant en ce monde. Et les magiciens du Pharaon eux-mêmes annoncent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu, parce qu'eux pouvaient agir, oui, mais agir dans le visible, dans ce qui pouvait être saisi. Or, les fameux kinim, ces tout petits poux, eh bien, c'était en dehors de leur capacité de les maîtriser. Donc, ils comprennent avec cette plaie que quelque chose est en train de se passer qu'ils ne maîtrisent pas. Cela nous fait rappeler l'épisode du serpent. Le serpent des magiciens était tenu par la tête pour l'empêcher de mordre. Mais ils ont vu que le serpent des Hébreux était tenu par la queue. Et là, ils n'ont pas compris. Ou plutôt, ils n'ont pas compris comment, avec des moyens de magicien, faire ce genre de choses. Parce que un serpent, à moins qu'il soit totalement endormi, un serpent attrapé par la queue reste tout aussi dangereux que s'il était libre. Et donc la poussière leur rappelait de la même manière, c'est le doigt de Dieu. Ils ont touché leurs limites de compétences, dirait-on aujourd'hui. Et cette plaie, comprise dans la dimension du drache, c'est que eh bien, les poux, ces petites choses insignifiantes, brisent l'orgueil humain. Des gens aussi importants que les fameux magiciens du pharaon se retrouvent incapables de faire quoi que ce soit. Leur orgueil est brisé. En définitive, on a là une série d'interprétations que l'on peut compléter par celle de la Chassidoute pour qui ces poux représentent les petites fautes, les petits détails négligés qui viennent fortement parasiter la vie spirituelle. Or, la sainteté commence aussi par de petites choses. Plus tard, dans la paracha Tsav, le Kohen en général, serviteur au temple, comment commence-t-il leur journée? Que va-t-il se passer pour commencer la journée? Eh bien, il nettoie les cendres de l'autel, il les sort. Bref, on voit que la sainteté, même au temple, commence par des petites choses. Ils font le ménage, tout simplement. Donc, ces petits poux viennent nous apprendre que même les petits détails que l'on pourrait négliger restent tout à fait constitutifs d'une journée, par exemple, d'une journée bien construite et sainte. Alors, toutes les plaies qui vont suivre, je ne vais pas m'étendre sur toutes, mais ces plaies qui vont suivre nous apportent ainsi systématiquement un ensemble d'éléments que l'on peut voir comme dans un kaléidoscope, sous plusieurs faces, sous plusieurs angles, sous plusieurs lumières. Eh bien, c'est les fameuses dimensions du Pardès. Les bêtes sauvages, quatrième plaie. Le mot même qui désigne bête sauvage dans ces passages de la Torah signifie mélange. Et c'est une allusion au chaos moral qui règne s'il y a mélange, c'est-à-dire si les frontières sont abolies. Les bêtes sauvages, ce sont les forces animales, Et ces forces ne peuvent pas être détruites tellement elles sont fortes. Mais on doit arriver à les canaliser. Donc l'homme doit apprendre à orienter son énergie brute vers le service divin. Il y a tout un travail à faire, et c'est ce que nous rappellera d'ailleurs après la fête de Pessah, dans toute la durée dite du Homer qui sépare le Seder, le Pessah de Shavuot, donc de la Torah, eh bien, il y a toute une amélioration individuelle chaque jour qui passe permettant de travailler un des traits de caractère. Cinquième plaie, la peste du bétail. La peste va frapper le bétail égyptien, mais épargne celui d'Israël. Donc le bétail, c'est bien sûr comme représentation, c'est surtout à cette époque, c'était la richesse matérielle. Et donc la plaie de la peste du bétail montre que la prospérité, elle dépend de la bonté divine, de sa bénédiction. Sinon, eh bien, c'est ce que l'on voit là, le bétail meurt. Sixième plaie, les ulcères. Et elles ont frappé aussi bien les hommes que les bêtes. Ça, c'est le pshat, le sens littéral. Maintenant, la peau, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de frontière entre l'intérieur et l'extérieur du corps. Donc, avec les ulcères, ce qui était caché devient visible. En définitive, le drache nous fait comprendre que les ulcères, eh bien, ils révèlent, ils mettent au grand jour ce qui pouvait être une corruption dissimulée sous la surface. Après la plaie des ulcères, c'est la grêle qui frappe. Une grêle de feu, de glace, semble, qui tombe du ciel. Ceci, c'est le sens littéral. L'allusion, c'est que l'on a des contraires. Le feu et la glace, c'est deux choses qui sont extrêmement contraires. Eh bien, huitième plaie, on va bientôt terminer, les sauterelles. Elles dévorent tout ce qui reste. Parce qu'il y a déjà eu des plaies extraordinairement fortes, la grêle notamment. On n'imagine pas des épis de blé tenir après la grêle qu'il y a eu. Eh bien, même ce qui restait a été détruit, destruction totale par les fameuses sauterelles. Et le Midrash considère les sauterelles, explique que les sauterelles ont agi comme une armée dévastatrice. On peut les comprendre aussi, et c'est ce que fait la Chassidoute. Les sauterelles sont comparées à des pensées envahissantes qui dévorent l'attention, empêchent l'âme d'être sereine. Donc le remède aux sauterelles, entre guillemets, c'est la kavana, la concentration, la volonté d'être concentré pendant que l'on fait par exemple sa prière. Et donc c'est rassembler les forces de l'esprit pour éviter tout ce qui peut déranger. Neuvième plaie, les ténèbres. Alors, avec les ténèbres, on n'est pas simplement dans le domaine d'une bougie qui s'éteint ou d'une ampoule qui a grillé. Pas du tout. On est dans un autre concept de ténèbres. Ce n'est pas l'absence de lumière. C'est une sorte, certains disent que c'est une sorte de tsimtsoum extrême ou HM. C'est totalement retiré de Mitzrayim. Et donc, il en est resté une obscurité extrêmement pesante. On nous dit même aussi que des Hébreux moururent dans les ténèbres pour ne pas embarrasser Israël. C'était donc un peu invisible, mais ces ténèbres représentaient aussi l'absence de sens total. Or, la pensée, la lumière intérieure doit être réveillée par la foi et par la conscience de la présence divine. Donc il y a, voyez-vous, ces ténèbres, au sens littéral, c'est très simple. Il a fait très nuit sur l'Égypte, il ne voyait rien, et il était vraiment rien du tout. Il y avait même plusieurs niveaux dans les ténèbres. Dans le temps qui avançait, les ténèbres ne se dissipaient pas. Et d'habitude, Imaginons par exemple une fumée de volcan pleine de cendres sur une ville. Bon, il fait nuit, mais peu à peu, le nuage se disperse, l'obscurité devient moins dense. Imaginons une éclipse de lune ou de soleil. Eh bien, il y a obscurité, mais peu à peu, la lumière revient et l'obscurité devient moins dense. Cette transition entre l'obscurité et la lumière. Là, pas du tout. Les ténèbres ont évolué dans le sens contraire de ce qu'aurait dû faire une ombre qui, peu à peu, devient lumière. C'est donc une grande allusion. Attention aussi, les ténèbres peuvent s'épaissir. Il ne faut pas croire que l'on est, disons, oh, pour l'instant, c'est pas très grave, je ne fais pas très attention à ceci et cela, les mitzvot, d'accord, mais bon, plus tard, bien oui, mais plus tard, on peut être encore plus empêché que l'on en était, qu'on l'était à un certain moment. Et abordons à présent, donc en deux mots, hein, pour résumer, les ténèbres, c'est l'absence de sens spirituel. Et il y a un travail, comme nous l'explique la Chassidoute, il y a un travail, réveiller la lumière intérieure. Enfin, dernière plaie, les plaies ont terminé avec ça, la mort des premiers-nés. Ainsi, ces 10 plaies que j'ai abordées tour à tour ne racontent pas seulement un épisode spectaculaire de l'histoire biblique. On peut les lire comme un processus de dévoilement, une sorte de pédagogie divine qui agit à la fois sur l'Égypte, mais aussi sur Israël. L'Égypte, c'est pour la punir, pour l'obliger à lâcher prise. Israël, c'est des leçons progressives qui lui permettent de progresser au niveau spirituel, comme on l'a vu sur plusieurs points, jusqu'au point final qui est de casser un ego envahissant. La Torah révèle que la libération qui vient après les 10 plaies, que cette libération n'est pas un événement soudain. Il a fallu un long cheminement pour y parvenir. Cheminement des 10 plaies successives et, au sens de la progression intérieure, cheminement intérieur, purification progressive des forces qui peuvent emprisonner l'âme. Le Pshat nous a montré la réalité historique. Des coups qui tombent, des coups successifs qui tombent sur un empire brisé. Une nation opprimée qui se relève. Dieu qui intervient dans l'histoire. Le Rémez nous a les allusions ont dévoilé des symboles, l'eau, le sang, la lumière, les ténèbres, tous ces signes qui sont adressés, quand on les interprète, hein, allusivement, adressés à la conscience de l'individu. Le niveau drache, explication homélytique, va éclairer la dimension morale. Il y a mesure pour mesure. Les plaies sont les conséquences de la cruauté de l'Égypte, de l'orgueil, de l'idolâtrie de l'Égypte. Et enfin, la dimension mystique, le sode, eh bien, on voit que chaque plaie vient réparer une distorsion dans les mondes spirituels. Elles viennent tour à tour rééquilibrer les forces de Hesed et de Gvoura. Elles viennent préparer la révélation du Sinaï. Et c'est cette interprétation, l'interprétation de la Chassidoute, va même jusqu'à dire que tout cela nous ramène au cœur de l'homme. Chaque plaie correspond à un blocage intérieur, à une entrave psychologique, une entrave spirituelle que chacun doit apprendre à contourner, à transformer. Ainsi, le sang était comprendre le sang dans cette perspective, c'est la transformation des passions brutes. Les grenouilles, arriver au silence intérieur. L'époux, faire attention aux tout petits détails. Les bêtes sauvages, canaliser les forces émotionnelles. La peste, savoir orienter l'énergie vitale. Les ulcères, eux, ont montré qu'il y a des blessures cachées qui subitement deviennent apparentes et qu'il faut soigner. La grêle nous a parlé de l'harmonisation des contraires, l'eau et le feu. Et quant aux sauterelles, elles nous ont parlé de la maîtrise de l'attention. Les ténèbres ont parlé de redécouverte de la lumière intérieure et la mort des premiers-nés nous a parlé de la brisure de l'ego. Ainsi, la sortie d'Égypte, ce n'est pas seulement un souvenir, c'est un mouvement, une dynamique de l'âme. Chaque génération, nous dit la Haggadah, doit se voir comme si elle était sortie elle-même d'Égypte. Cela signifie que chacun porte en lui Mitzrayim, une étroitesse, une confusion, une servitude, et que chacun doit s'en sortir. Il doit arriver à se libérer de cette Mitzrayim, de cette étroitesse. Ainsi, vu à travers le Pardès, les 10 plaies deviennent une sorte de guide spirituel, une sorte de plan pour de guide pour pouvoir faire un chemin meilleur. Elles nous font comprendre que la liberté ne se conquiert pas en un instant. Il a fallu passer par 10 étapes, mais il faut donc traverser une à une les zones, les difficultés qui peuvent obscurcir la conscience. Il convient, pour que la lumière divine s'allume, se révèle pleinement, il convient de dissiper les illusions, de purifier l'âme. Ainsi, nous refermons ce petit parcours avec la conscience d'une évidence. La sortie d'Égypte, ce n'est pas de l'histoire. Elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Elle se rejoue chaque jour, dans chaque choix, dans chaque transformation intérieure que l'on conduit. Et c'est précisément là que va résider la grandeur de ce récit des 10 plaies. Il ne raconte pas simplement ce qui fut à une époque bien ancienne où les Hébreux ont vu la fin de leur esclavage, mais elle raconte également ce qui peut, ce qui doit devenir pour chacun et à chaque instant. Et donc, après ce tour d'horizon, il ne nous reste plus qu'à souhaiter un bon Pessah lorsque l'on approchera de Pessah. Au revoir et merci.